jusqu'à midi. Le paranormal avec Marc Menant et Rémi Chauvin.
Oui, Jackie, Rémi Chauvin, professeur de biologie, un homme à la curiosité insatiable qui a essayé de découvrir la vérité, sans doute pas, il n'a pas cette prétention, mais de voir quelles sont les zones de réflexion que l'homme peut s'offrir en étant simplement eh bien, dans une recherche qui nous illumine dans la pétillance de la recherche en tant que telle. Hein. Nous sommes d'accord, Rémi Chauvin.
Tout à fait. Hein, la recherche ne connaît pas de bloc, il empêche d'avancer, on contourne le bloc, et puis c'est tout. Elle n'a pas de domaine interdit. Il n'y en a pas de domaine interdit a priori.
Alors c'est ça, la seule chose c'est qu'en France en particulier, on a tendance à cloisonner et surtout à ne pas toujours chercher à s'ouvrir pour s'ouvrir.
Ah écoutez, c'est une tendance, c'est pas une tendance, c'est un interdit absolument radical. J'ai eu plusieurs élèves qui étaient universitaires et qui avaient des curiosités coupables comme moi. Je vous en donnerai pas les noms, à part celle de René Péoche, mais René Péoche est un médecin et il a une situation indépendante. Par conséquent, il ne risque rien. Mais j'en ai eu d'autres qui sont dans l'université et qui risquent leur place. Tout simplement.
Alors vous, est-ce qu'il y a eu comme ça des moments dans votre existence?
Écoutez, j'ai appliqué le proverbe chinois. On peut être brouillé avec quelqu'un tout le temps, on peut être brouillé avec tout le monde un certain temps, mais il ne faut pas être brouillé avec tout le monde tout le temps.
Mais ce n'est pas une philosophie simple à adopter.
Je suis normand. Et quand normand se heurte à un mur, il ne se fâche pas, il en fait le tour. C'est beaucoup plus simple.
D'accord. Alors, on va aller dans ce domaine de l'irrationnel un tout petit peu plus loin, puisque vous avez même osé mener des expériences avec François Brune, qui est ecclésiastique de son état. Nous l'avons déjà rencontré plusieurs fois dans certaines émissions. Personnage étonnant, détonnant, et qui donc essaie de mener des dialogues avec des entités disparues. Y a-t-il une vérité derrière ça? On connaîtra dans quelques instants vos expériences. Mais au standard, au 01 42 32 15 15, il y a Alain qui a souhaité intervenir. Alain, bonjour.
Bonjour Marc, bonjour Monsieur Chauvin.
Bonjour.
Alors, racontez-nous, ou plus exactement, posez votre question.
Bah écoutez, j'ai découvert la transcommunication avec le livre de Monique Simonet, et j'étais un peu surpris parce que j'y croyais pas trop à l'époque. Et puis de fil en aiguille...
Vous aviez acquis le livre comme ça, par hasard, un caprice, ou simplement le libraire n'avait qu'un seul livre ce jour-là disponible?
Non, je m'intéresse à tout ce qui est paranormal.
Ah, quand même, d'accord.
Je n'avais entendu parler sur France 3, il y avait une petite émission comme ça, je me suis dit, oui, c'est possible, pourquoi pas, mais enfin bon, puis j'ai laissé tomber tout ça. Et puis après, je suis donc tombé sur ce livre de Monique Simonet, qui a une association qui s'appelle Infinitude, et qui m'envoyait des cassettes. Je les ai écoutées, j'étais très surpris. Après ça, j'ai fait une petite enquête personnelle. J'ai essayé de rencontrer les transcommunicateurs, et je me suis aperçu qu'il y avait des gens très très sérieux qui obtenaient des résultats assez incroyables.
Alors quel était le résultat qui vous a le plus étonné?
On a fait un petit essai. J'ai une amie qui est devenue une amie parce qu'on s'est rencontrés simplement pour faire des échanges comme ça. Hein. Donc elle a fait un contact avec un petit magnétophone de 250 francs, un micro tout simple. Et puis bon, elle a l'habitude, elle obtient des contacts réguliers.
Donc l'au-delà est abordable pour pas cher, hein, on est bien d'accord.
En ce qui concerne certaines personnes. Mmh. Mais si vous voulez, vis-à-vis de cette personne-là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de trucage. Vous voyez,
c'est ça qui est important.
C'est ça qui est important. Hein,
parce alors que s'est-il passé sur ce magnétophone? Quelles ont été les conditions d'expérimentation? Après, vous poserez votre question, Rémi Chauvin.
Voilà. Alors, donc, elle a fait un contact. Elle a appelé ses entités de l'au-delà, comme elle a l'habitude de le faire. Et elle a demandé qu'ils prononcent mon nom. À la réécoute, on a bien entendu Jean-Baptiste. Enfin, c'était le nom d'un ami qui était avec moi. Hein. Mm-hmm. À l'époque, moi, je retapais une fermette, et vous savez, on est en négligé, hein, quand on est dans une fermette, hein. Alors, je voyais personne, donc j'étais toujours en jean, en t-shirt. Quand je suis allé chez cette personne, bien sûr, je me suis mis sur mon 31, et on nous a dit, on a répondu sur le magnétophone, ils sont beaux chez Luca. Vous voyez? Bon, ça c'est juste deux petits exemples. Hein.
Voilà, alors au-delà de cet exemple, une question à Rémi Chauvin, puis après on parlera des expériences qu'il a menées.
Je voulais tout simplement savoir ce qu'il pensait, parce qu'il doit avoir l'habitude de rencontrer les transcommunicateurs, donc ce qu'il pensait de ces réponses qu'on entend sur le magnétophone.
Alors, c'est une bonne question, et je pense qu'on va pouvoir entrer dans une des expériences que Rémi Chauvin a menées. Alors, professeur Chauvin, quand vous entendez ces anecdotes...
Bien, oui, pour moi, c'est plus que des anecdotes, parce que j'ai essayé. Entre parenthèses, ce que dit ce monsieur, actuellement, il y a des milliers de personnes qui font des avances analogues. C'est comme dans le temps où on faisait tourner les tables. Entre parenthèses, quand les tables tournaient, c'est pas le diable qui était dans les pattes de la table, il y a tantôt le gars qui nous parlait de l'au-delà, c'est tout simplement une possibilité particulière du cerveau. Dans le cas
arrêtons-nous deux secondes là, parce que c'est intéressant ce que vous dites, oui. Une capacité particulière du cerveau, c'est-à-dire qu'on serait dans l'hypothèse d'un cerveau créant une force d'attirance, une force d'agitation avec un fluide pas déterminé, c'est ça?
Oui, c'est des termes, comment dirais-je, assez vagues, mais le phénomène est lui-même difficile à définir. Et ce qui est arrivé, non pas une fois, mais des centaines de fois, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, beaucoup plus que tout le reste, comme d'habitude d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est que le magnétophone, non seulement le magnétophone, mais l'ordinateur, a parfois des caprices bizarres. Par exemple, on voit un message s'inscrire tout seul sur l'ordinateur. Et non pas une fois, mais des quantités de fois. Alors, la première hypothèse, ils sont fous ces gens-là. Alors, j'ai pris le taureau par les cornes, puis je vais essayer. C'est-à-dire, j'avais un de mes amis, Aimé Michel, qui était un écrivain mort il y a quelques années, et nous étions jurés, pour le premier d'entre nous qui franchirait les portes noires, avertirait l'autre.
D'accord. Le premier en fuite, quoi.
Le premier, oui, mais il l'a pas fait. Pourtant, dans le temps, il était sérieux. J'en ai dit que maintenant qu'il est mort, il est pas sérieux.
Il avait de la parole, il en a plus.
Oui, il en a plus. Alors, j'ai pris mon magnétophone, et puis j'ai fait ce qu'on fait dans ce genre de truc, c'est-à-dire, j'appelle Michel, Michel réponds-moi, ici Rémi Chauvin, Michel réponds-moi. J'ai essayé un mois et demi, tous les soirs à heure fixe, rien, de rien, de rien. Mon magnétophone, quand je le mettais rebobiné, que je le faisais parler, il ne me disait rien. Puis un beau jour, j'ai entendu, avec la plus grande précision, les mots suivants, que j'ai rien compris. Je m'appelle moi-même Rémi, réponds-moi. Alors j'étais abasourdi. Il dit, mais c'est Michel que je veux. J'ai dit bêtement, silence du magnétophone, qui jamais plus ne m'a dit quoi que ce soit.
Mais alors, en revanche, ce qui est intéressant, parce qu'il y a deux éléments d'information dans ce que vous nous dites, la non-communication avec Michel, mais néanmoins, sur le magnétophone, un support, vous qui n'êtes quand même pas un personnage douteux sur la crédibilité, il s'est bien inscrit une information.
Écoutez, je l'ai écouté de mes oreilles. Je n'ai rien compris, mais je ne suis pas sujet d'habitude aux hallucinations auditives. Il n'y a aucune autre genre d'hallucination d'ailleurs. Alors, il y a un point qui est extrêmement curieux. Parce qu'il y a une énorme bibliographie là-dessus. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Il y a des milliers de références là-dessus, parmi lesquelles il y a quelques livres, peu, et quelques études, peu, très sérieuses. Alors, ce que je voulais dire... Excusez-moi, j'ai perdu le fil.
Non, mais nous sommes donc dans cette expérience que vous avez menée, le magnétophone qui s'inscrit.
C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Alors, il y a une expérience extrêmement intéressante. Il y en a plusieurs. Ils ne sont pas nombreuses, mais il y en a plusieurs. C'est des gens qui écoutent leur père, par exemple, et qui enregistrent sa réponse au magnétophone. Mmh. Hein. Alors, dans certains cas, pas très nombreux, mais il y en a, la personne en question qui est défunte a été enregistrée elle-même pendant sa vie. Alors, vous savez que maintenant, on peut décoder un message enregistré et le comparer avec la plus grande précision. C'était la même voix. Alors là... l'explication, j'en
C'est-à-dire
ai pas.
C'est-à-dire que le spectre magnétique, entre guillemets, électromagnétique...
Il était le même. Alors, écoutez, ça, c'est extrêmement bizarre. Il n'y a pas qu'un cas. Évidemment, ce n'est pas très fréquent. Mais ça arrive néanmoins.
Alors, ce qui est étonnant, pour autant, c'est que souvent, le contenu du message, il est quand même insipide. Alors, l'imitation, je ne sais pas si c'est Laurent Gérard, elle est parfaite, en l'occurrence, mais la densité du propos, pas terrible, si.
Oh, généralement, c'est pas terrible au moins du monde.
Voilà.
N'est-ce pas ? Enfin, quand il s'agit de consulter un défunt, parce qu'on l'a bien aimé dans le temps qu'on a moins parlé, le message en lui-même est assez saisissant, surtout quand c'est avec la même voix. Mais en général, ce qui est dans tous ces messages, c'est qu'ils sont d'une banalité désespérante. Si par hasard on obtenait de cette manière-là des renseignements scientifiques intéressants, ben tout le monde y croirait. Ça n'est jamais arrivé, sauf dans un seul cas, dans le cas de Ramanujan, qui était un très célèbre mathématicien hindou, qui a prétendu que tous ses travaux, c'était la déesse de Holagiri qui lui avait suggéré. Je n'ai pas connaissance de cette personne dite déesse de Holagiri, ni de Ramanujan d'ailleurs, et de toute façon je ne comprends rien du tout aux recherches de Ramanujan, donc je n'ai pas d'opinion. C'est un cas, mais les autres cas... Alors il y a quand même deux points précis. enfin deux, il y en a d'autres, mais il y a deux points précis. Il y a une brave dame dont j'ignorais le nom, insignifiant d'ailleurs, dont je ne me rappelle plus le nom, insignifiant d'ailleurs, et qui avait comme unique culture la lecture de journaux féminins anglais. Ce n'est pas de niveau très élevé, pas beaucoup au-dessus des journaux féminins français, enfin vous voyez ce que je veux dire.
On va se faire des amis, merci.
Non, mais les dames vont dire que les journaux masculins ne valent pas mieux, bien sûr, bien
nous
sûr.
Nous sommes
mais
d'accord.
Enfin, bon, d'accord. Laissons ça. Mais elle connaissait l'anglais, bien sûr, et un beau jour, elle se met à écrire un poème. Écrit un poème d'environ 10 000 vers en anglo-saxon ancien, que seuls 5 ou 6 experts peuvent déchiffrer encore maintenant. J'en ai vu des traductions, mais c'est pas mal du tout, dites-donc. C'est pas mal du tout. Et elle était la première ahurie de ce qu'elle écrivait comme ça, et prétendait que quelqu'un lui dictait de l'au-delà. Bon, un premier point. Et un autre point, ça se passe en Angleterre aussi. Je dis pas en Amérique, parce qu'en Amérique, tout le monde sait que tout se passe beaucoup mieux qu'en Europe, et c'est en Angleterre, pour une fois. C'était une brave dame qui savait taper sur son piano le Ghost of the King. Elle était plus calée que moi, parce que moi, je suis incapable de servir de cet instrument. Surtout pour taper le Ghost of the King. Et un beau jour, elle voit le fantôme de Liszt. Le fantôme de Liszt.
C'est Rosemary Brown, on l'avait évoqué une fois dans l'émission.
C'est ça. Et alors, elle se met à jouer des musiques qui ressemblent, d'après les experts, je n'en suis pas un expert, c'était du Wagner, c'était du Liszt, c'était des pièces tout à fait intéressantes du point de vue musicographique. Or, elle était complètement inculte de ce point de vue-là. Alors, ça, c'est deux points qui sont tout à fait curieux. Il y a eu d'énormes études là-dessus.
Alors, c'est curieux, c'est vrai, et pour autant, peut-on déduire qu'il y a effectivement un rapport avec des entités défuntes ? Est-ce que ce n'est pas une autre façon pour notre cerveau de s'exprimer en déclenchant des phénomènes
effectivement,
inconnus ?
Effectivement, ce n'est pas obligatoire. Elle aurait pu puiser dans un cerveau vivant, vous comprenez ? Ce n'était pas forcément le fantôme de Liszt qui lui était apparu. C'est néanmoins, disons, bougrement bizarre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier, parce qu'il y a d'autres exemple. Il y a eu un peintre, par exemple, qui était un barbouilleur infâme, qui d'un coup se met à peindre à toute vitesse et même dans l'obscurité, à la manière de Picasso, de Michel-Ange, de n'importe qui. C'est des imitations, direz-vous, mais elle était parfaite, elle s'était faite à toute vitesse. Pourquoi ? Comment ? Il prétendait qu'il était inspiré par ces gens-là. Alors, il était inspiré par je ne sais pas quoi, mais le fait est que les pièces étaient là, qu'il les faisait même dans l'obscurité, et que c'était néanmoins d'excellentes peintures, alors que c'était quand même un vague barbouilleur.
Alors, est-ce que dans les travaux que vous menez, dans les recherches multiples qui ont été les vôtres, vous avez eu la sensation parfois qu'une intuition vous venait au-delà de vos capacités habituelles et de là à se dire, bah, si on est un peu mystique ou que l'on veut croire à des forces différentes, se dire, bah, tiens, là, aujourd'hui, je suis inspiré par un inconnu, par un au-delà. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti ou pas ?
Hélas, monsieur, j'adorerais ça, mais ça ne m'est jamais arrivé. Mes ancêtres et les pères de mes pères étaient des paysans normands. On a les deux pieds bien à plat sur la terre, hein, sous nos pommiers, et on n'a pas d'inspiration. Et je n'ai jamais eu d'inspiration, comme vous dites, et j'aurais adoré ça.
Alors après, il y a l'interprétation que l'on peut faire aussi, c'est la capacité d'influencer la matière. Tout à l'heure, vous parliez de l'eau, mais si on va entrer en liaison avec René Péoc dans quelques instants, ce que je voudrais savoir, c'est si, lorsqu'on peut créer sur une bande magnétique, comme ça, une voix, est-ce que c'est pas une autre faculté qui dériverait de cette capacité d'influence de l'esprit sur la matière ?
Écoutez, c'est possible. Pour expliquer ce que va l'origine de René Péoc, René Péoc est médecin et docteur en sciences. Il a été de mes élèves, il a fait sa thèse de science chez moi. Et c'est un gaillard très positif, qui a tout de même une culture scientifique. Et un autre de mes élèves avait créé un petit appareil complètement idiot mais très intéressant qu'on appelait ptychoscope, de deux mots grecs qui veulent dire « je cherche la fortune », c'est-à-dire la fortune, le hasard. Et c'est une boîte de conserve qui se déplaçait au hasard sur trois roulettes. Alors c'était extrêmement amusant, on aurait dit une petite bête. C'était très suggestif, vous comprenez ? Alors on s'est aperçu que plusieurs d'entre nous pouvaient faire venir le ptychoscope ou le chasser. On s'est aperçu aussi, et ça c'est beaucoup plus intéressant, que les animaux pouvaient agir sur le ptychoscope. Moi-même, j'ai essayé sur les souris ont peur du ptychoscope, ça fait un petit ronronnement. Alors quand ils sont emprisonnés dans une cage, le ptychoscope s'éloigne statistiquement de la cage. Péoche a fait d'autres expériences, qu'il va nous raconter tout à l'heure, où il a employé des poulets, qui rapproche le tachycoscope. Alors c'est extrêmement important, c'est peut-être l'expérience la plus importante de la parapsychologie, parce qu'on travaille sur les animaux, vous comprenez, que c'est beaucoup plus facile de travailler sur les animaux.
Alors quand même, je m'arrête deux secondes sur les souris. Vous dites, elles s'enfuient à cause du bruit.
Non, elles ne s'enfuient pas. Ah bon, c'est le tachycoscope qui s'enfuit.
Oui, d'accord. Ah, c'est lui qui s'en va.
Elles sont encore, c'est lui qui s'en va. Hein, il s'en va pas dans 100% des cas, mais statistiquement, c'est archi net, parce qu'il laissait une trace sur le papier, on le voyait très bien. Et maintenant, on a un autre appareil beaucoup plus précis, qui analyse toutes les démarches du tachycoscope, et qui nous dit tout de suite s'il y a une différence statistique avec le hasard. C'est l'appareil que Péoche a essayé. C'est l'expérience la plus importante de la parapsychologie.
René Péoche, bonjour.
Oui, bonjour Marc.
Donc on vous retrouve. La semaine dernière, vous étiez avec nous. Nous avions évoqué d'autres sujets. Et si on revient à cette influence de la pensée sur la matière, cette expérience que Rémi Chauvin vient d'évoquer avec les souris, et on parlera après des poulets. Alors, votre éclairage.
Eh bien, voilà, il y a quelques années, donc avec Monsieur Rémi Chauvin, donc que je salue, nous avions commencé quelques essais avec ce robot-là qu'il vient d'évoquer. Donc il venait juste d'être fabriqué par son inventeur, donc Monsieur Janin, et nous avions essayé avec un jeune étudiant qui se trouvait dans le laboratoire, donc d'essayer d'influencer nous-mêmes, donc par notre propre pensée, ce petit robot. Et à notre grande surprise, on constatait que finalement il y avait des anomalies étranges, que effectivement le robot avait tendance à obéir partiellement donc à notre pensée, mais c'était parfois un petit peu inconstant, et notamment avec l'homme, bon, il y avait constamment la peur d'échouer à ce genre d'expérience. Donc il m'était venu l'idée d'essayer avec des animaux qui, eux, ne sont pas conscients du tout qu'on les met devant une expérience qu'ils doivent réussir. Et donc on avait commencé effectivement par quelques souris. Et ensuite, devant les premiers bons résultats, j'avais donc confié à Monsieur Chauvin le soin de poursuivre, puisque c'était dans son laboratoire. Enfin, pour changer des souris, j'avais essayé d'utiliser des jeunes poussins, parce que les poussins ont la capacité de s'intéresser à un robot dès lors qu'ils sont nés quelques minutes après l'éclosion. Donc si on les met en présence d'un robot, ils vont adopter ce robot exactement comme si c'était leur mère. Donc on fait l'expérience pendant 6 jours, donc le robot est à proximité des poussins, donc en liberté avec les poussins, et au bout de 6-7 jours, donc les poussins ont complètement adopté le robot exactement comme si c'était leur mère. Donc si on enlève le robot, ils piaillent comme des désespérés, et aussitôt qu'on leur remet le robot, donc ils sont immédiatement rassurés. Donc l'expérience consiste à mettre un poussin tout seul dans une cage transparente en verre, et d'éloigner donc le robot, donc d'éloigner leur mère à plus d'un mètre de distance, et voir effectivement ce qui va se passer. Est-ce que le robot se déplace sur le sol, donc sur ses 3 roues, dans toutes les directions au hasard, comme il le fait normalement, ou bien est-ce que le poussin va être capable, comme l'homme, de perturber le hasard pour faire en sorte que ce robot se dirige dans une direction plutôt qu'une autre. Alors, on a fait donc plusieurs centaines d'expériences, et on doit dire que les résultats nous ont beaucoup stupéfiés, parce que dans 2,7 fois, vous voyez, presque 3 fois plus de cas qu'avec le hasard, 3 fois plus souvent, le poussin arrive à attirer donc ce robot vers lui. Alors statistiquement, ça voulait dire, en fait, puisqu'on en a fait des centaines, qu'il n'y avait pas une chance sur 1 million... pour que les résultats observés soient dus au hasard. Donc il y avait bel et bien une action des poussins sur ce robot.
Alors peut-on aller plus loin dans l'expérience aujourd'hui, ou est-ce que malheureusement ça stagne une fois qu'on a constaté ça, on est malheureusement un peu en stérilité?
Eh bien non, on a pu effectivement poursuivre, puisque il y a eu des gens qui se sont demandés, mais est-ce que c'est pas la chaleur du poussin ou son champ magnétique qui peut avoir une action? Donc on a fait l'expérience un petit peu témoin, c'est-à-dire de voir ce qui se passe avec des poussins, par exemple, qui ont leur propre mère poule, hein, donc qui n'ont pas adopté le robot comme étant leur mère, parce qu'ils avaient déjà leur propre mère naturelle. Eh bien, dans ces cas-là, on s'aperçoit qu'ils laissent le robot se promener au hasard indifféremment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés par le robot, donc ils le laissent se promener tout à fait au hasard normalement. Ce qui prouve que c'est pas la simple présence physique du poussin qui attire le robot, c'est son conditionnement psychologique. On a fait ensuite une expérience inverse, faire en sorte que les poussins ait peur du robot, donc en mettant une bougie au-dessus du robot, en se plaçant dans le noir total, comme les poussins ont tendance à avoir peur du feu et de la flamme, eh bien on a vu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il repoussait donc ce robot à l'opposé de la cage de façon extrêmement impressionnante. Donc on voyait bien que finalement le résultat était constamment en fonction du conditionnement psychologique qui avait été opéré. S'ils étaient très intéressés par le robot parce que c'était leur mère, ils l'attiraient. Si au contraire ils en avaient peur, ils le repoussaient. Et puis s'ils en avaient pas spécialement peur, s'ils n'étaient pas spécialement intéressés, qu'ils l'avaient jamais vu, qu'ils avaient leur propre mère poule, eh bien ils laissaient se promener indifféremment. Alors on a par la suite recommencé donc avec un autre gros robot qui lui pouvait exactement être analysé dans tous ses mouvements par un ordinateur, et on s'est aperçu que bien il n'y avait pas de problème, même avec un autre robot d'une nouvelle génération, plusieurs années après, on retrouvait le même type de résultat.
Donc merci.
On peut analyser très exactement le moindre déplacement et être sûr que c'est complètement différent du hasard.
Merci René Péoc. Alors est-ce que Rémi Chauvin, au-delà de l'expérience menée en laboratoire, dans les études qui sont les vôtres en tant qu'entomologiste, il y a une analogie qui pourrait se faire, je ne sais pas, chez les abeilles, chez les fourmis, est-ce qu'il y a comme ça des incidences invraisemblables?
Chez les abeilles et les fourmis, j'ai essayé. Il y a des fois, mais je dis encore, jusqu'à présent, je n'ai rien obtenu de pareil. Mais je reviens une seconde sur l'expérience qu'a fait René Péoche. C'est une expérience parapsychologique répétable. Ça marche à peu près à toutes les fois, ce qui est très rare en parapsychologie, car la parapsychologie, c'est comme en psychologie, les phénomènes sont assez élusifs, ils apparaissent ou ils n'apparaissent pas. Quand, par exemple, quand vous demandez à un athlète de remporter un match, il dit, écoutez, je serai en forme ou je ne serai pas en forme, peut-être que je l'aurai, peut-être que je ne l'aurai pas. Cependant, ce qui est vrai, c'est qu'il est un athlète. Voyez-vous ? Alors donc, là, sur les animaux, quand la physiologie a été créée, elle a été créée sur des animaux. S'il avait été créé sur des hommes, on ne serait pas beaucoup avancé, parce qu'il y a des expériences qu'on ne peut pas faire sur les hommes. Et là, nous sommes, pour la première fois, en présence d'une expérience sur les animaux, il y en a eu très très peu, et la preuve que c'est sérieux, c'est que les Américains l'ont recommencé en pensant que c'était eux qui l'avaient inventé naturellement.
Ben allons donc, une bonne récupération. Alors, il y a aussi des expériences qui... c'est René Péoc qui m'avait suggéré ça quand je l'ai appelé au téléphone pour vous lui dire qu'on souhaitait l'avoir dans notre conversation. Il m'a dit que vous aviez tenté ou que vous avez eu des amis qui ont tenté des expériences d'influence de la pensée sur les sources radioactives.
Ah oui, ça c'est une expérience qui entache gravement ma réputation professionnelle.
Alors entachons-la jusqu'au bout, allons.
Il n'y a plus rien à perdre.
Non
mais ça remonte au temps où j'étais jeune chercheur. Mmh. Aussi j'ai publié les résultats en allemand dans une revue que personne ne lisait.
C'était la seule fois de votre vie où vous ayez été lâche alors.
Prudent.
Prudent, d'accord. Oui.
Prudent. Parce qu'en Normandie, nous savons jusqu'où on peut aller trop loin.
D'accord.
Alors là, tous les physiciens me sont tombés dessus. Alors j'avais dans mon laboratoire un vieux flacon de nitrate d'uranium et un appareil de Geiger qui devait remonter à peu près au temps des Romains ou quelque chose comme ça. Enfin, ça marchait encore un petit peu.
Un appareil de...
Le compteur de Geiger.
Ah, d'accord, le compteur Geiger.
Et alors... lorsqu'on mettait le flacon de nitrate d'uran sur le compteur, il crachouillait plus que d'habitude. Bref, ça marchait un petit peu. Il n'était pas complètement usé. Alors j'ai eu deux de mes neveux qui étaient des grands sujets, qui réussissaient très très bien. Je leur ai dit, ben voilà, on va faire quelque chose comme la bombe atomique. Ils m'ont dit, tu vas faire péter une bombe atomique, mon oncle. On dit, presque, presque. En tout cas, vous allez agir sur les atomes. J'aurais fait une théorie de la fusion atomique qui aurait fait hurler n'importe quel collègue physicien, mais enfin, ils avaient 12 et 13 ans, ils s'en sont contentés. Et on dit, ça va-t-il faire autant de bruit? Ben, écoutez, je ne sais pas, j'espère que non. De toute façon, la porte est ouverte et vous pouvez sauter dans le jardin si ça se fait exploser. Alors donc, je me place le nitrate d'uran sur le Geiger. Et ils ont eu la permission de tourner les boutons, et puis la petite lumière a commencé à fonctionner, et le compteur a compté les impacts. Alors il dit, tu vas essayer de ralentir, c'est l'atome qui pète, tu vois. Alors tu vas essayer de l'empêcher de péter. Dans une autre expérience, tu vas essayer de le péter davantage, c'est là qu'on risque de faire un gros boom comme la bombe atomique. Je rougis de ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je leur ai dit. Et ils étaient très intéressés. Surtout qu'il y avait la récompense habituelle du sac de bonbons. Ça, il faut pas oublier le côté pratique.
Vous avez beaucoup aidé la corporation des dentistes.
Même en physique, ça aide. Hein.
D'accord.
Et alors, j'ai essayé 50 fois dans un sens, 50 fois dans l'autre. Ça a marché. C'est-à-dire que c'était tout à fait en dehors des lois du hasard. Et ça a été recommencé par des physiciens anglais et allemands. et qui me l'ont confié, mais qui n'ont pas osé le publier, parce que ça va trop loin, vous comprenez.
Alors, c'est-à-dire que ça reste aujourd'hui encore sous le manteau.
Bah, oui, à peu près. Enfin, je l'ai quand même publié, mais en allemand, dans un périodique personnalisé. Puis les Français ne lisent pas l'allemand, en plus. C'est une précaution supplémentaire. Alors, c'est extraordinaire, bon, c'est très bizarre. Mais savez-vous bien qu'il n'y a rien de plus mystérieux qu'une explosion atomique. Je vais vous citer un exemple de mon excellent ami Hubert Riss. Mmh. Vous avez un petit morceau d'uranium, hein, et vous savez qu'il va exploser. Il fait des petites explosions, puis au bout d'un certain temps, il n'explosera plus du tout, parce qu'il aura épuisé sa charge radioactive en quelque sorte. Hein. Bon, mais pour un atome d'uranium, vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est lui qui va exploser plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que c'est un phénomène, comme dit Hubert Riff, c'est un phénomène sans cause. Sans cause décelable. Mais théoriquement, il n'y a pas moyen de trouver une cause, parce qu'il n'a pas de mémoire, il n'a pas de sensibilité non plus. Il y a pourquoi cet atome va-t-il exploser plutôt qu'un autre ? On ne sait pas.
Bon, eh bien, beau détour par la physique, c'est de la physique atomique, hein, nous sommes d'accord. Et nous allons demander à Bernadette, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin, de s'exprimer. Bernadette, bonjour.
Oui,
vous n'êtes pas loin, vous êtes à la Garenne Colombes.
Oui, c'est ça.
Alors, votre intervention.
Oh, je voulais raconter deux expériences, parce qu'elles sont restées toujours une énigme pour moi, puisqu'il n'y a pas d'explication scientifique. J'étais chez moi, j'avais mon bébé, j'étais en train de faire à dîner, et tout d'un coup il m'a pris une impulsion subite et je me suis dit il faut que je téléphone à mon père, sinon j'entendrai plus jamais sa voix. Et j'ai pas tiré de conclusion logique du tout de ça. J'ai appelé mon père, on a parlé gentiment, tout allait bien, etc. Il était tout seul à ce moment-là à la maison, il vivait seul à ce moment-là. Et puis j'ai raccroché tranquille, puisqu'on a parlé de choses banales, enfin. Et le lendemain matin, la femme de ménage l'a découvert mort. Et apparemment, il était mort peu de temps après mon coup de téléphone. Et ça m'a énormément impressionnée, surtout ma bêtise de ne pas avoir déduit que, puisque j'entendrai plus jamais sa voix, c'est peut-être qu'il serait mort. Mais j'ai pas du tout pensé à ça. Et puis j'ai eu une autre expérience, c'est... J'étais dans un hôtel et comme on ne voulait pas m'embêter, ma mère était un peu fragile, elle avait une petite intervention à l'œil, pas très grave, et on ne m'avait pas dit. Et donc je me suis réveillée brutalement vers 8h30 du matin et je m'étais couchée très tard et j'ai vu ma mère dans la chambre, évidemment, ça m'a beaucoup surprise. Elle était en chemise de nuit, une espèce de commode, enfin je ne comprenais rien, mais ça m'a réveillée en sursaut. Et là, j'ai commencé à angoisser énormément et j'ai téléphoné à tout le monde puisque mes parents n'avaient pas le téléphone. Et je suis tombée sur un ami et j'ai dit « Comment ça va alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. On m'a dit « Mais comment, tu es au courant ?» J'ai dit « Oui, oui, bien sûr, mais je mentais pour avoir la vérité. » quoi. Et on m'a dit « Bon, bah, il y a eu un petit arrêt cardiaque, mais finalement, ça s'est réparé et maintenant, tout va bien, ça va bien, elle va bien, bon, etc. » Et d'après les recoupements, donc, apparemment, elle est apparue dans ma chambre à un moment où son cœur se serait arrêté quelques instants, quoi. Et ça aussi, j'ai vérifié la chemise de nuit, c'était la même, et des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui m'ont énormément impressionnée, et même si à une autre époque, j'aurais dû être brûlée sur un bûcher, je l'aurais soutenue, parce que c'est vraiment...
Oui.
C'était trop fort, c'était trop vrai, quoi.
Écoutez, c'est très très bien compté, en dehors de tout. Merci Bernadette. Alors, on va demander à Rémi Chauvin, quand vous entendez des témoignages comme cela, est-ce que, bon, là, il y a d'un côté une sorte de précognition, hein, c'est-à-dire...
Les témoignages comme cela sont innombrables. Ils sont innombrables. Et alors... parmi eux, la voix du mort étant la même que celle qu'il avait enregistrée quand il était vivant.
Oui, c'est ce que vous nous disiez tout
alors,
à l'heure.
Alors là, si quelqu'un a une explication, je voudrais bien qu'il me la sorte. Hein.
Mais est-ce que vous êtes intéressé dans les différentes approches qui ont été les vôtres dans l'étrange, à la précognition comme ça? Donc le cas de Bernadette, qui bon, soudain dit « il faut que j'appelle mon père, il va se passer quelque chose ». Elle pense même pas, elle n'a pas cette extrapolation morbide, et le lendemain, son papa qui est décédé. Est-ce que, donc là, c'est quand même sentir l'avenir. Est-ce que vous êtes intéressé à ça, et quelles conclusions en avez-vous tiré?
Ah oui, bien sûr, il y a eu également d'autres expériences très nombreuses sur la précognition, et certaines avec des applications militaires, si vous voyez ce que je veux dire, parce que la NASA s'est occupée de ça, hein. Et il y a même un rapport de la NASA que j'ai eu entre les mains, un rapport qui a été déclassifié, comme on dit, où il était question de recherches parapsychologiques qu'il avait entreprises C'était pas sur la précognition, c'est la vision à distance, mais ça avait aussi une partie précognition. Alors, elle avait servi, elle avait été utilisée pendant 20 ans, d'après le rapport officiel, c'est toutes ses recherches. Elle avait coûté je sais pas combien de millions de dollars. En Amérique, n'importe quoi coûte des millions de dollars, comme chacun sait, n'est-ce pas? Et au bout de 20 ans, ils ont trouvé que ça n'avait pas d'application industrielle, ni militaire. Alors, écoutez. Quand les services secrets vous racontent qu'on a travaillé pendant 20 ans sur un sujet comme ça, et qu'ils ont continué pendant 20 ans, ça a coûté des millions de dollars et ça n'a pas d'application, moi je les ferais fusiller, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on ne peut rien admettre ni rien croire à ce que racontent les services secrets. En réalité, nous savons ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé quelques grands sujets. Et ils ne tiennent pas à ce qu'on le sache.
Alors, dans les grands sujets, vous avez eu des échos ?
On en connaît, oui, on en connaît quelques-uns.
Alors, prenons-en un.
Par exemple, le nom m'échappe actuellement. C'est Blue Harary, un type, je n'ai jamais su prononcer l'américain.
C'est pas grave, moi non plus, donc je ne vous aiderai pas. Je vous laisse responsable.
Un américain doué. Hein. On s'amusait à lui dire, écoute, par exemple, tu vois un point sur la carte, n'importe lequel, qu'est-ce qui se passe là ? Une carte muette, bien sûr. Alors, il a décrit, il a dit, c'est drôle, il n'y a rien, mais il y a quelque chose en dessous, c'est souterrain. Bah, c'est une base secrète. Tu rigoles? Non, écoutez, il y a des dossiers, je lis même sur les dossiers trois ou quatre trucs qui sont intéressants, que je ne comprends pas d'ailleurs, mais il y a top secret dessus. Mais, il est fou, je ne sais pas ce qu'il raconte, n'est-ce pas? Enfin, ils l'ont publié, et ils ont eu la visite de certains messieurs de la CIA, de très mauvaise humeur, en disant, qu'est-ce que vous avez été foutre dans cette base qui est secrète ? Je dis, mais on n'a rien fait, c'est un type qui voit à distance, il vous foutez de nous, hein. Si vous continuez à faire ça, il a pénétré dans la base, il va vous arriver des ennuis terribles. Hein. C'est arrivé, ils ont eu plusieurs sujets comme ça, puis à la suite, il n'est pas arrivé d'ennuis parce qu'ils ont recruté le type, tout simplement.
Alors, si on va clore ce dossier, et en revanche, s'intéresser, on revient à votre base, la biologie, et on s'aperçoit là quand même qu'il y a aussi des cas qui dérangent et qui peuvent nous conduire à des extrapolations plus humaines. Un jour, on avait évoqué, c'était avec Hélène Renard, si ma mémoire est bonne, des cas de physiologie assez invraisemblables, de personnages qui sont capables d'avoir une température à 58 degrés, d'autres qui ont un corps qui ne se décompose pas... qui, trois siècles après, sont encore dans l'intégrité de leur physiologie. Et j'ai remarqué dans l'un de vos ouvrages l'évocation que vous faisiez des tardigrades.
Des tardigrades, oui.
Alors, racontez-nous les tardigrades, parce que là aussi, c'est complètement fou.
Il n'y a pas que des tardigrades, c'est des petites bêtes dont le nom est latin, qui veut dire « je marche lentement », parce qu'ils marchent très très lentement. Et on les trouve partout, dans les mousses, dans les endroits incroyables, et ils résistent au froid et à la chaleur d'une manière totalement... insensibles, c'est-à-dire on a fait l'expérience de les dessécher, de les lyophiliser, comme on dit. Après, quand vous sortez du lyophilisateur, vous êtes plutôt sec. Hein. Alors à ce moment-là, tous leurs organes se réduisent à des petits grumeaux noirs, on ne voit aucune trace d'organisation cellulaire.
C'est-à-dire que même, vous dites dans votre ouvrage, en observant au microscope, les molécules ont totalement disparu.
Les molécules, enfin les structures cellulaires.
Voilà, les structures cellulaires.
Hein. Et ensuite, vous les mettez dans l'air liquide. L'air liquide, c'est plutôt froid. Oui, j'oubliais un mois. Vous dites, ils sont morts. Vous les sortez, alors vous avez un espèce de petits grumeaux tout racornis, et vous le mettez sur un buvard. Ils se regonflent, ils s'enfuient à toutes pattes dans l'heure qui suit. Alors, ce sont donc des animaux qui pourraient être des passagers interstellaires très bien, ils seraient gelés par l'espace, et ils pourraient nous arriver là-dessus. Et on l'a retrouvé, dernière nouvelle, dans des glaces de l'Antarctique, si je ne me trompe. Je ne sais pas si l'Antarctique ou le Groenland. Et ils étaient là. Ils étaient là depuis environ 10 000 ans. Il était gelé, mais pas mort. Voilà ce que j'ai lu dans le journal. Maintenant, les journalistes, sans vouloir vous vexer, l'en racontent tellement.
Encore plus
les hommes de science. Mais enfin, ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que d'autres, donc il y a non pas deux états de la matière vivante, la vie ou la mort. Il y a la vie, il y a l'arrêt de la vie et il y a la mort. Et alors, naturellement, partant de là, on a proposé à des milliardaires américains de les lyophiliser, de les refroidir et de les dessécher de manière à ce que 100 ans plus tard, ils puissent revivre.
Oui, bien sûr.
Et ils ont marché, ils ont payé. Hein. Mais alors, ce qui arrivera quand on fera vraiment l'expérience, moi, je crois pouvoir l'affirmer.
Mais quand même, là, en tant que biologiste, ça échappe à toutes les études que vous avez eues et que vous avez menées durant votre existence, cette histoire des tardigrades, là, non ?
Écoutez, Oui, mais attends, la biologie, c'est une histoire de fou, d'un bout à l'autre. Alors qu'il en arrive plus ou moins, hein. Il y a par exemple le fait des anasténarides, les gens qui marchent sur le feu. Hein. Mm-hmm. Ça se voit couramment au moment de la Pâque orthodoxe auprès d'Athènes. Il y a même des autobus qui mènent les gens voir ça. Alors, il marche incontestablement sur le feu. C'est un bûcher qui est composé de charbon rougeoyant. Il paraît que même à un mètre, on peut s'en approcher parce qu'il fait trop chaud. Et il marche là-dessus. Alors, ils ne font pas un kilomètre là-dessus, mais ils font quand même une dizaine de mètres. Du pied, ils ne sont pas brûlés. Alors, vous pouvez voir ça quand vous voulez. On a envoyé d'ailleurs des photographes pour vous montrer la chose. Explication, j'en ai pas.
Alors là, je note, pendant que vous étiez en train de me parler, j'ai glissé un œil sur les nombreuses fiches qui nous arrivent au standard. Tout à l'heure, vous évoquiez les expériences de Rhein sur la parapsychologie, l'influence de la pensée sur la matière, oui. En particulier sur les tirages de dés, les cartes, etc. Et c'est Michel qui dit, mais il avait triché, il l'a avoué lui-même. Ça n'exclut pas les expériences que vous avez menées, vous, qui, elles, étaient en dehors de toute triche.
Mais non, hein. Mais écoutez, c'est tout à fait erroné. Voyez-vous, il y a des gens très fort honnêtes, d'ailleurs, mais qui parle de la chose sans connaître l'immense bibliographie qu'il y a sur le sujet. Je sais parfaitement ce qui est arrivé à Rhein. Un de ses collaborateurs, dans lequel il avait confiance, a triché. C'est Rhein lui-même qui l'a mis à la porte dans l'heure qui suit, et qui a prévenu tout le monde qu'il y avait eu une fraude et qu'il fallait partir contre des expériences. Rhein était l'homme, qui était un de mes amis, était l'homme le plus honnête de la Terre. Mais il y a des brebis galeuses partout, il en avait une dans son laboratoire. Et puis écoutez, ça tient au système américain. Le type avait une bourse pour faire des expériences, et s'il ne trouvait pas des résultats, la bourse allait être coupée. Il avait femme et enfant, il a triché. Il est idiot, naturellement, mais c'était un pauvre gars.
Voilà. Alors, également, on aimerait avoir votre éclairage sur les capacités invraisemblables des pigeons voyageurs à s'orienter. C'est Jean-Paul qui...
Ah ben ça, c'est tout à fait connu, ça. Il y a énormément de recherches, dont très peu françaises, malheureusement, sur les pigeons voyageurs. Ils disposent de plusieurs possibilités de s'orienter. D'abord, ils peuvent s'orienter d'après le soleil. Ensuite, ils peuvent s'orienter d'après les étoiles. Parce qu'il y a des courses de pigeons aux îles Hawaï la nuit. Hein? Et on sait d'après quelles étoiles ils s'orientent, et on les met dans le planétarium et on occulte des séries d'étoiles, ils s'orientent d'après les plus grosses étoiles. Hein? C'est déjà pas mal. Mais en plus, ils ont une boussole magnétique, et en plus, ils ont un odorat absolument extraordinaire. Si par hasard, on les transporte dans une caisse complètement fermée, où il n'y a pas d'odeur qui puisse leur parvenir, ils auront les plus grandes difficultés à revenir chez eux. Et ils sentent par exemple l'odeur fauve du champ de blé que frappe le soleil, l'odeur de la grande montagne rouge ou de la forêt voisine qui est fraîche, etc. Et ils s'orientent d'après ça. Et alors, cette orientation magnétique est en mention plurielle, avec toutes sortes de stimuli variés, non seulement le magnétique, mais les étoiles, mais le soleil, mais l'odorat, et existe chez pas mal d'animaux, effectivement.
Alors, chez les abeilles, il y a cette capacité
les abeilles,
oui.
Hein. Les abeilles, c'est assez curieux, c'est encore mal éclairci. Bien, il y a eu d'immenses travaux sur les abeilles, mais il en reste encore beaucoup à faire, n'est-ce pas? En tout cas, ils savent calculer leur chemin d'après le soleil, et elles ont un sens magnétique, elles ont également un sens olfactif extrêmement développé, c'est-à-dire que ça se rapproche du pigeon voyageur, chez le pigeon voyageur, c'est néanmoins plus développé encore.
Et dans votre ouvrage qui traite des abeilles, hein, que vous venez de publier, L'énigme des abeilles, vous dites qu'elles peuvent s'orienter à pratiquement au degré près, par rapport au soleil, c'est ça ?
À peu près, oui, c'est extrêmement précis. Alors, quand Von Frisch, c'est Von Frisch qui a découvert ça il y a bien des années, n'est-ce pas? Ça a fait un charivari absolument épouvantable. Il s'est fait engueuler le brave homme, il n'avait pas encore le prix Nobel. Il a parlé de Bienensprache, c'est-à-dire le langage des abeilles. Le mot Sprache, le langage, a fait hurler tous les linguistes. Le langage, c'est le propre de l'homme, et vous vous dites que les abeilles parlent, non mais vous êtes fous, etc. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Enfin bref, je lui ai demandé plus tard, comment vous avez découvert ça? Il m'a dit, j'ai découvert ça dans Aristote. Parce qu'Aristote avait une ruche, les Grecs ne connaissaient pas la vitre, mais il avait une ruche avec une paroi en corne transparente, il voyait les abeilles danser. C'est une sorte de danse en forme de huit aplaties. Et Aristote avait dit, elles dansent joyeusement parce qu'elles voient le soleil. Alors, j'avais une ruche comme celle d'Aristote, sauf qu'il y avait une vitre, je l'ai vue danser, mais il y avait une difficulté. Pourquoi ? Le temps était couvert, il n'y avait pas de soleil. Alors, c'est là-dessus que je suis parti. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de plus compliqué là, à voir. Et Il a vu par la suite la méthode d'orientation des abeilles qui était fantastique, n'est-ce pas? Et personne ne l'a cru. Sauf un jour, Thorpe de Cambridge, qui était un des plus grands sceptiques, va voir Von Frisch, et Von Frisch dit, écoutez, voilà des abeilles qui dansent, voilà une montre pour calculer la cadence de la danse, voilà un rapporteur pour mesurer l'angle par rapport à la verticale, j'ai déposé du miel dans une bassine, à une certaine distance, trouver la bassine. Alors Thorpe calcule, du fou ce type, enfin bref, mais il calcule, puis il marche dans la direction, et il dit, c'est pas vrai, ça va. Puis d'un coup, il a failli mettre le pied dans la bassine. Alors depuis, il est revenu à Cambridge absolument enthousiaste. C'est l'aventure sans succès, ça, vous comprenez. Des aventures comme ça, nous en connaissons quelques-unes.
Alors, vous êtes intéressé également aux travaux de Sheldrake sur la télépathie, en quelque sorte, chez les animaux. On va faire une page de publicité, et puis on va revenir sur ce sujet.